du sommet, le premier ministre britannique Boris Johnson s'inquiète.
Je suis très inquiet parce que cela peut mal tourner et nous pourrions ne pas obtenir les accords dont nous avons besoin. C'est du toucher et aller, c'est très très difficile.
Les scientifiques disent que le résultat du sommet de Glasgow affectera probablement chacun d'entre nous sur une planète Terre en réchauffement.
Voilà, et pour le débat, nos invités à Pretoria, le Dr Schermbau, directeur de l'Institut Future Africa, spécialiste en changement climatique et en télédétection. À Libreville, nous avons Marc-Ona Essangani, il est le secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest Gabon. Et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vers toujours, Marc-Ona Essangani. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons... David Koulibaly, directeur exécutif de l'ONG AFON, Action en faveur de l'homme et de la nature. Alors, Schermbau, les COP, ces conférences des partis, comme on les appelle, se tiennent depuis 1995 à Berlin et celle de Paris de 2015 a mis sur la table un programme très ambitieux de réduction des émissions à effet de serre. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à Glasgow à juste une autre conférence?
Merci Abdourahman, merci pour l'invitation, bonsoir à tous. Oui, je serais d'avis que bon, les conférences viennent et ne donnent pas nécessairement les résultats qu'on espère pour résoudre les grandes questions climatiques dans le monde. Vous avez cité la première réunion à Berlin, mais pour moi le repère commence à Kyoto en 1997 déjà, où il y avait un engagement ferme de réduction des gaz à effet de serre de 5% des pays développés de l'Union européenne et de 37 ou 40 pays développés, de réduire un peu leurs émissions de 5% chaque année à partir de 2008. Et ça, ça aurait eu un impact extrêmement positif sur le réchauffement climatique pour les cinq années qui étaient projetées entre 2008 et 2012. Malheureusement, entre ces deux dates, on a tenu une réunion à Marrakech pour tenir les promesses africaines. La réunion de Copenhague est arrivée en 2009. Avec des obligations non contraignantes. 2015, on est arrivé à Paris avec les contributions déterminées qui ne sont que des engagements, qu'un engagement moral des pays pollueurs par rapport au changement climatique. Là, on est à Glasgow et les mêmes choses se répètent avec les mêmes effets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement concrètement des pays développés pour réduire les gaz à effet de serre. Et tant que cette question n'est pas résolue, on continuera malheureusement à parler des changements climatiques parce que le problème principal, il est simple, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui créent les changements climatiques. Tout le reste, c'est des aspects qu'on doit régler en aval, mais le problème en amont, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc, d'accord. Je serais d'avis que ce sera malheureusement une réunion de plus et il n'y aura pas de solution concrète par rapport aux émissions, malheureusement.
Alors Marc, sur votre compte Twitter, vous écrivez, et je vous cite, à chaque COP son échec, à quoi servent alors ces conférences annuelles? On dirait que vous attendez pas à grand-chose, hein, Marc. Et pourtant, votre pays, le Gabon, ne peut pas se désintéresser du débat sur la déforestation, n'est-ce pas?
Oui, je suis entièrement d'accord avec l'intervenant du
débat.
J'ai pris part à les cas et j'ai décidé de ne plus aller à ces grandes messes tout simplement parce que les grandes puissances ne jouent pas franc jeu. Autant tout le monde est attaché à la croissance économique dans son pays, autant personne ne veut s'engager à faire des efforts considérables. Et aujourd'hui, la seule récompense qu'ils trouvent, c'est de dire, voilà, il va falloir trouver des financements pour dédommager certains pays. Mais à quoi servent ces financements si dans certains pays où ces financements vont être injectés, il y a la mauvaise gouvernance? Alors, moi, je suis très sceptique par rapport à cette réunion de Glasgow, tout simplement parce que c'est un marché de dupes.
Alors, David Koulibaly, en Côte d'Ivoire, chez vous, la déforestation a atteint 93% dans 7 des 22 espaces protégés. Comment est-ce qu'on peut protéger la forêt ivoirienne sans priver le petit agriculteur de son gagne-pain?
Alors, bonjour à tous. Je salue tous les collègues Et je salue aussi tous ceux qui sont à la COP actuellement pour faire avancer les négociations climatiques. Alors, chez nous, en Côte d'Ivoire, le constat, il est clair, c'est que entre 1960 à ce jour, la forêt ivoirienne a connu 90 à 93% de destruction selon les statistiques du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Alors, aujourd'hui, nous faisons face au fait que la dégradation de la forêt est une réalité en Côte d'Ivoire. Il ne nous reste que 3 millions d'hectares de forêt à protéger. Alors, cela a amené l'État de Côte d'Ivoire à s'engager dans un processus qui se nomme la RED, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la dégradation et à la déforestation. Cette situation amène l'État à mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes, dont l'agriculture zéro déforestation. Cette agriculture permet aux petits paysans de pouvoir redynamiser leur activité sans pourtant détruire la forêt.
Je suis sûr que Makona aura certainement des choses à dire sur ça aussi. Mais docteur Sherbaou, est-ce qu'on n'est pas quand même en train de vouloir imposer à l'Afrique un choix injuste, stopper la déforestation et la pollution, alors qu'elle doit elle aussi s'industrialiser et nourrir sa population?
C'est très juste votre observation. Moi, je dis très souvent dans mes interventions que ce qu'on veut nous payer en termes de compensation par rapport aux impacts des changements climatiques, c'est juste pour la séduction médiatique. Ça n'aura pas un peu l'effet pour répondre positivement au changement climatique. Pour résoudre les questions des changements climatiques, il faut arrêter les émissions excédentaires dans l'atmosphère. Ça, c'est d'une part. Maintenant, pour les impacts, pour répondre aux impacts, on vient au niveau de la COP avec deux solutions. La première solution, c'est de dire il faut augmenter les financements sur l'adaptation. Donc, sur les 100 milliards qui sont promis, c'est moins de 10% qui ont été mobilisés par rapport à ces 100 milliards. D'ailleurs, un rapport des Nations Unies qu'on appelle Adaptation Gap dit qu'il faut plus de 300 milliards, c'est pas 100 milliards, mais plus de 300 milliards qui seront très loin du compte, malgré les grands fonds qui sont mis en place, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds pour l'adaptation, le Fonds vert, et ainsi de suite. Donc, sur le plan des compensations climatiques, il y a un grand problème. Mais l'autre problème majeur, c'est ce que vous évoquez. On ne peut pas demander à l'Afrique de ne pas utiliser ses services écosystémiques pour répondre au bien-être de ses populations, pour répondre à la production agricole. Parce que les systèmes de production qui sont en place sont fortement dépendants des ressources naturelles. Donc, leur demander de dépolluer le crop avec le minimum de compensation, c'est créer en réalité une question éthique profonde qui est liée à ces négociations depuis le début. C'est de dire que nous pouvons polluer, mais vous devez nettoyer. Et en plus, le pollueur ne paye pas à sa juste valeur les quantités de gaz à effet de serre qui sont mis dans l'atmosphère. Donc, le jeu de dupes dont parlait mon collègue tout à l'heure, il est réel. Et je pense que c'est aux Africains de venir au COP avec leur propre agenda, de ne pas se faire imposer un agenda. RED, c'est un agenda qui a été imposé par les pays du Nord. Et je vais vous donner un exemple. Les arbres qui doivent séquestrer du carbone ne sont pas justement exclusivement dans la forêt. Il y a des arbres dans nos champs, il y a des arbres dans les vergers. Mais tout ce qu'on fait en termes de livelihood en rapport à ces arbres sont mis à côté et on considère que la conservation de ces forêts, qui sont en réalité les principales sources de services écosystémiques, d'eau, de bois, de nourriture, ainsi de suite, qu'on veut nous priver au nom du climat. Donc il va falloir que les compensations soient à la hauteur. D'accord. Et il faut que les Africains puissent défendre.
D'accord. Alors Marc, comment est-ce qu'on peut allier la nécessité de rattraper ce retard industriel et en même temps protéger son environnement?
Ben, je pense que les Africains devraient être beaucoup plus créatifs. Aujourd'hui, quand on parle de conservation en Afrique, on a l'impression que la conservation nous est venue de l'extérieur, qu'on nous a imposé cette technique. Alors, quand je regarde la manière dont nos parents exploitent nos ressources, exploitent la forêt pour se nourrir, pour se soigner, pour manger, et je pense que ce sont les plus grands conservateurs. Et aujourd'hui, l'Afrique doit faire preuve de beaucoup d'imagination. Au lieu de mettre toutes ces ressources à la disposition des financements internationaux qui ne vont pas servir à la population, il faudrait qu'on trouve des moyens pour que les Africains puissent créer de la richesse avec sa nature.
David Koulibaly, les décideurs africains, je sais que vous donniez l'exemple des autorités ivoiriennes, mais ces autorités sont-elles suffisamment engagées pour se faire entendre dans les discussions au niveau international, et également la société civile aussi africaine?
David? Oui, allô?
Oui.
Effectivement, la société civile est très engagée dans le processus des négociations internationales. Nous avons pour preuve de leur participation depuis la signature de l'accord de Rio en 1992 jusqu'à la COP21. Je puisse vous assurer que la société civile a été un acteur très important dans l'accord climatique. Et quand on voit l'expertise que regorgent les associations de la société civile, nous pouvons être heureux de la démarche entamée et surtout des résultats obtenus. Alors les autorités, c'est vraiment une situation difficile parce que n'oublions pas qu'il y a les enjeux stratégiques, les enjeux politiques et les enjeux économiques. Donc ce que les populations et nous, acteurs de la société civile, nous faisons, c'est de contribuer chaque jour à ce que l'on puisse changer les gaps, tant au niveau local, au niveau national. C'est cela notre activité. Nous pouvons toujours demander à ce que les acteurs de la société civile soient debout et qu'ils puissent continuer ce travail de plaidoyer qu'ils font auprès de nos décideurs. Sachez qu'il y a un cadre de dialogue permanent mis en place par la Convention cadre des Nations Unies qui permet à ce que partenaires techniques, acteurs de l'État de la Côte d'Ivoire ou des autres pays et la société civile, nous soyons assis ensemble sur la même table pour ensemble juger de l'opportunité des actions climatiques à mener pour permettre et renforcer la résilience de nos populations.
D'accord. On va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Ruben Muteba en République démocratique du Congo qui écrit: il faut que les habitants des forêts équatoriales et amazoniennes soient indemnisés si vous voulez qu'elles soient protégées. Faustin Makembe à Goma, toujours en RDC, nous dit que le monde est injuste, les grands pollueurs font semblant d'aider les Africains non pollueurs. Et puis Alphonse Mbouaki à Kinshasa, décidément aujourd'hui des réactions de la RDC. L'Inde, troisième pollueur derrière la Chine et les États-Unis, vise la neutralité carbone d'ici 2070. C'est trop loin, alors que les besoins de réduction des gaz à effet de serre sont pressants. Voilà, vous pouvez continuer à réagir sur notre page Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses politiques, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Au Sénégal, une association profite de la tenue de la COP26 à Glasgow pour tirer la sonnette d'alarme. Les femmes du monde rural qui s'activent dans l'agriculture subissent déjà l'impact du dérèglement climatique en Afrique. Et si rien n'est fait, la situation de ces femmes déjà vulnérables va empirer. Suivons ce reportage d'Alison Lekogo-Fernandez et de Maïdir.
Depuis qu'elle a créé son association il y a 2 ans, Radi Camara parcourt le Sénégal à la rencontre des femmes du monde rural. Son objectif, promouvoir leur autonomisation à travers l'entrepreneuriat vert. Mais un peu partout, ces femmes s'inquiètent. À l'image de Binta Wan, maraîchère dans la forêt de Mbao, en périphérie de Dakar. Ici, les pertes agricoles ont considérablement augmenté depuis 3 ans et les légumes ne poussent plus comme avant.
Ça, c'est le soleil, c'est dû au soleil, aux chaleurs extrêmes, mais également à la contamination des sols due à la pollution aux gaz à effet de serre. Chaque année, elle arrivait à produire jusqu'à 67 kilos qu'elle revendait pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Donc cette année, ça veut dire que ce groupement ne pourra pas vendre d'aubergines.
Sur cette parcelle de 2 hectares exploitée par une cinquantaine de femmes réunies en groupement, les pertes atteignent désormais 40% contre moins de 10% auparavant. Avec l'augmentation des températures, de nouveaux parasites font leur apparition, comme sur les racines de ces choux.
Il y a des petits boules qu'on appelle les nématodes. Nous voulons des solutions pour que ça ne revienne. On ne met pas des pesticides. C'est pourquoi on a un problème très difficile de traiter ces produits.
Selon le dernier rapport du GIEC, les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Et l'Afrique est particulièrement exposée au choc climatique, alors qu'elle ne produit que 4% des émissions de gaz à effet de serre. Un paradoxe que Radhi Camara entend dénoncer à travers cette marche, organisée à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Écosse, une marche qui a réuni une centaine de femmes.
Nous avons envie aujourd'hui, à travers cette marche, que la voix des femmes sénégalaises, la voix des femmes africaines, qui d'ici 10 ans seront confrontées à une extrême pauvreté, soit entendue et soit mise sur la table des négociations pour que l'injustice climatique ne soit plus de rigueur.
Alors, à l'aube de cette nouvelle grand-messe du climat, l'association appelle les pays industrialisés à respecter leurs engagements pris il y a 6 ans lors de la COP21 à Paris, engagement qui visait à limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Alice Nekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum de Pretoria, le Dr Shembo, directeur de l'Institut Future Africa, à Libreville via Skype, Marco Naesangani, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest Gabon, et à Abidjan, David Koulibaly, toujours via Skype, il est le directeur exécutif de l'ONG AFON, Action en faveur de l'homme et de la nature. Alors, Dr Shembo, comme on l'a vu dans ce reportage, les rendements des sols semblent baisser un peu partout en Afrique, avec moins de terres disponibles et des températures extrêmes. Faut-il s'inquiéter que l'Afrique ne puisse pas nourrir à l'avenir sa population, qui augmente quand même à un rythme galopant? Et y a-t-il moyen d'inverser la tendance avec des nouvelles techniques?
Ce que vous venez de dire, M. Dia, montre clairement que quand nous négocions les accords climatiques avec les États à Glasgow ou à Paris ou ailleurs, nous oublions assez souvent que la mise en œuvre de ces résolutions, ce sont les communautés locales qui sont exposées au quotidien aux impacts des changements climatiques et qui détiennent in fine les solutions climatiques, parce que c'est l'agrégat des solutions locales qui feront un peu cette réponse globale dont nous faisons, que nous cherchons en réalité avec ces accords. Oui, en Afrique, il y a énormément d'innovations, il y a énormément de solutions, il y a énormément de pratiques, il y a énormément de réponses locales qui ne sont pas malheureusement reflétées dans les rapports globaux sur les changements climatiques. Vous prenez les rapports sur l'adaptation de façon générale. Les connaissances locales, les connaissances endogènes sont très faiblement représentées. Et je crois que la réflexion que nous devons mener, c'est comment renverser un peu ce lien, ces relations entre les connaissances globales que nous avons et les réponses locales que nous devons amener pour que les communautés puissent survivre à les impacts des changements climatiques.
La question...
Les rendements vont baisser, mais nos parents... Allô?
Oui, l'Afrique peut-elle nourrir sa population dans l'avenir si ça continue?
Oui. Si ça continue, ça risque d'être un grand problème. La réduction de ce qu'on appelle le rendement agricole, cette réduction de ces rendements est très très claire. Mais le problème le plus fondamental en ce moment par rapport à l'agriculture, ce sont les pertes de récoltes. Quand on n'attend plus la pluie arrive. Quand on a déjà semé des graines en attendant que la pluie n'arrive jamais. En milieu de saison des pluies, ce qu'on appelle les longues pauses pluviométriques, tout cela a un impact sur la qualité, la quantité de la production agricole. agricole. Maintenant, si vous rajoutez les questions de transformation agricole, ça devient un véritable problème planétaire.
Alors Marc, oui, la baisse des rendements, comme l'a dit Chiambo, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, mais également au Gabon, n'est-ce pas? Est-ce forcément imputable au changement climatique?
La baisse de rendement est liée à la concurrence déloyale que nous imposent les Occidentaux ou les Asiatiques. Je vous prends le cas de la production de certains denrées comme le manioc ou le maïs. Si les autorités locales ne donnent pas les moyens à nos paysans pour pouvoir multiplier leur production, je pense qu'on ne peut pas arriver à nourrir le continent.
Et qu'est-ce qu'il faut faire justement?
Les terres. Mais, ce qu'il faut faire, c'est que non seulement il faut mettre à disposition les terres, c'est-à-dire pour une politique foncière beaucoup plus... mais aussi, et des techniques, et surtout le renforcement des capacités de nos agriculteurs pour que la production s'adapte à la nouvelle donne démographique.
Alors, David, votre organisation, je sais, est très engagée dans la promotion des énergies renouvelables. Comment vous pouvez expliquer aux populations, en tout cas pour une prise de conscience, du lien entre ces énergies renouvelables et la sécurité alimentaire ou même encore leur santé?
Alors, pour nous, le lien reste la durabilité et le bonheur quotidien des populations. Donc, il y a depuis un certain nombre d'années des techniques traditionnelles valorisées qui sont les énergies de cuisson. Alors, ce sont des énergies qui permettent de capitaliser tant de l'énergie sur des longues périodes sans pouvoir détruire la forêt. Donc, nous invitons chaque jour dans nos sensibilisations les populations à se tourner d'abord vers ces différentes techniques qui leur permettent d'économiser du temps, d'économiser aussi leur santé et de permettre à ce que ce rendement-là puisse être une plus-value en termes financiers. Donc, il y a le fait que l'utilisation de ces énergies de cuisson permette de ne pas avoir une influence sur le couvert forestier quand on sait que le bois de chauve reste la première source utilisée par les populations pour pouvoir nourrir la grande famille. Donc, l'utilisation de ces énergies permet à ces petites familles, à ces populations de pouvoir avoir cette plus-value en termes de santé.
D'accord, on n'a pas beaucoup de temps, peut-être 30 secondes de chair. Ces promesses financières faites aux pays pauvres, est-ce qu'il y a moyen de pousser ces pays riches à les faire respecter ou à respecter leurs engagements?
C'est une question de volonté politique. Regarde, le sommet du G7 récemment a imposé pratiquement une taxe sur les grandes multinationales. S'ils peuvent le faire à cette échelle-là, ils peuvent certainement le faire par rapport au changement climatique. La taxation carbone et un recyclage de ces gros financements sur les taxes carbone pour répondre aux adaptations au changement climatique. Ça, c'est possible, mais c'est une volonté politique. Et je ne pense pas qu'en ce moment, on est en train d'embarquer sur ce chemin-là.
Oui, en 10 secondes. Votre proposition, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pays respectent leurs engagements, Marc?
Ben, on ne peut pas les forcer, il faut tout simplement que les Africains prennent leurs responsabilités afin de répondre aux questions climatiques actuelles.
D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. Merci énormément à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, également sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.